Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue à Droit de parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants et des étudiantes en droit de l'Université Laval. Je m'appelle Justine Bissonnette-Lépine et c'est moi qui sera votre animatrice pour l'épisode d'aujourd'hui. Ce matin, ma co-animatrice s'appelle Noémie Chaillé et elle est présidente du comité de droit criminel et pénal. Allô Noémie!
Bonjour!
Est-ce que tu veux t'introduire à nous avant de commencer?
Oui, absolument. Donc, moi c'est Noémie, je suis en troisième année au bac. Puis mon intérêt pour le droit criminel et pénal, il existe chez moi, je pense, depuis que j'ai à peu près 7 ans. Ça a toujours été mon plan A et c'est mon plan A, donc je me dirige là. Puis j'ai participé l'année dernière au procès simulé du comité. Puis ça m'a donné envie de reprendre le flambeau en tant que présidente, puis de donner accès aux étudiants au droit, puis d'en apprendre davantage aussi sur la pratique. Puis OK, voilà.
Puis aujourd'hui, tu nous as amené une invitée assez intéressante en parlant de ta mission. On a avec nous Maître Jennifer Landry, qui est procureure au Bureau des poursuites criminelles et pénales et coordinatrice du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. On va en reparler un petit peu tantôt. Mais avant de commencer, Maître Landry, je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de votre parcours.
Oui, mais bonjour. Merci de nous avoir invités. Le tribunal spécialisé, c'est un sujet qui est d'actualité. Donc, c'est bien qu'effectivement, les étudiants de l'université là, puissent en prendre connaissance parce que pour ceux qui vont se diriger effectivement en droit criminel, c'est quelque chose qui va faire quand même partie intégrante dans leur pratique là, pour les années à venir. Donc, Jennifer Landry, vous m'avez présenté. Je suis diplômée en fait du barreau 2002. Ce qui fait très longtemps. Mon passage à l'université date effectivement de longtemps. Dès, en fait, mon stage du barreau a été fait, en fait, au DPCP, donc Bureau de Point de service de Chicoutimi. Puis par la suite, j'ai toujours été au DPCP. C'était mon plan de carrière. Donc, je voulais pas faire autre chose. Ça m'a amené, en fait, comme procureur à me promener puis à faire plusieurs régions. Donc, j'ai fait la région de Québec. J'ai fait Shawinigan-Latuc, je suis allée au Lac-Saint-Jean également, jusqu'à Chibougamau. Et j'ai travaillé, en fait, au niveau de la chambre criminelle et pénale, donc la chambre adulte, les 10 premières années de ma pratique. On faisait aussi du tribunal de la jeunesse, mais les 10 années suivantes, je me suis spécialisée au niveau des affaires de la jeunesse. Donc, on appelle le BAJE, le Bureau des affaires jeunesse pour le DPCP. Finalement, en décembre 2022, j'avais envie de d'autres défis. Donc, j'ai été en prêt de service, en fait, pour le Bureau des mandats organisationnels du DPCP. Et en février 2023, on m'a demandé si j'étais intéressée, en fait, à faire la coordination du tribunal spécialisé. Ce à quoi j'ai dit oui, là, parce qu'effectivement, c'est un beau défi de carrière, plusieurs choses à construire à venir. Donc, voilà, toujours DPCP.
Bien, merci, c'est très intéressant. Puis, on va rebondir tout de suite sur notre sujet. Dans le fond, vous pratiquez actuellement au sein du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre pratique?
OK. En fait, j'ai fait du terrain les 20 premières années de ma carrière. Donc, ça veut dire que je faisais des représentations devant les tribunaux. Par contre, au Bureau des mandats organisationnels, je me suis retirée de la pratique quotidienne de faire des dossiers, donc ambiance sexuelle ou ambiance conjugale, ou de toute nature, en fait. Et au niveau de la coordination, c'est plutôt une vision globale que j'ai à voir. Donc, de quelle façon on aide le terrain, de quelle façon le DPCP se place pour faciliter l'implantation du tribunal spécialisé dans ses points de service. Comment on améliore la pratique de nos procureurs, comment effectivement cette nouvelle philosophie-là va s'installer dans nos pratiques. Donc, on travaille avec les équipes terrain, on travaille aussi avec le ministère de la Justice qui, lui, a son équipe du tribunal spécialisé. Et bien évidemment, tout ça étant nouveau, mais on a des enjeux pratico-pratiques, mais on a des enjeux juridiques également. Donc, on voit à amener les solutions le plus possible. On est dans des projets pilotes, ce qui nous permet effectivement d'essayer des choses puis de voir effectivement si ça fonctionne bien ou on doit se réajuster.
Mais vous êtes vraiment dans un tout nouveau projet. J'imagine que ça doit être intéressant au quotidien, là.
Effectivement.
Je me demande, je pense que vous êtes la bonne personne pour nous parler de la loi visant la création du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de l'historique là, de cette loi-là, là, comment elle est venue à venir, puis...
Oui, comment ça s'est installé. En fait, on va remonter à quelques années, des années probablement, si vous vous souvenez aussi, qui ne sont pas nécessairement très loin, mais quand on parle de la vague de dénonciation qui était hashtag MeToo, on l'a eu aux États-Unis, mais on l'a eu très fortement aussi au Québec. Ça a amené des constats de fond. Oui, on a dénoncé des personnes qui ont dénoncé avoir subi des violences sexuelles, mais ça dénotait aussi une espèce de ras-le-bol de la société peut-être envers l'institution ou envers les institutions de la justice, et aussi une absence d'accompagnement peut-être ou de soutien auprès de la personne victime. Ce qui a été nommé, bon, de plusieurs façons, a fait en sorte qu'il y a des acteurs sociaux, là, des acteurs de notre société qui, bien évidemment, ont été interpellés sur plusieurs sphères, dont la sphère politique. Et c'est des politiciennes, de façon non partisane, qui ont décidé de s'asseoir ensemble pour regarder, en fait, c'était quoi les enjeux que ça dénotait, ce mouvement-là. En est ressorti effectivement des besoins au niveau de l'accompagnement, une compréhension de ce qu'elles vivent au niveau de la violence en soi, que les acteurs soient formés. Donc, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas régler rapidement. Elles ont finalement décidé de créer un comité d'experts qui devait se pencher, entre autres, sur toutes ces questions-là. Alors, le comité d'experts a été créé en mars 2019. Il y a eu des auditions, il y a plusieurs personnes qui ont été amenées à se présenter pour expliquer. Donc, on parlait le mouvement, la maison des femmes d'hébergement, ensuite de ça, les procureurs, il y a des victimes qui ont témoigné. Et là, j'en passe. C'est pour plus d'intérêt, là, je l'ai amené. Le rapport Rebâtir la confiance, il est quand même assez volumineux.
Oui, on le voit sur la table, il fait à peu près 200 pages.
Oui, mais vous avez l'historique en détail, mais... elles ont fait, c'est Julie Desrosiers puis une ancienne juge là, qui est Mme Cortez, elles ont fait vraiment le tour de ce qui pouvait pas très bien fonctionner finalement avec les constats qu'ils avaient faits. Et il y a plusieurs chapitres, mais il y a un chapitre dans le rapport Rebâtir qui est le chapitre 12 qui couvre effectivement l'idée qu'on peut avancer d'un tribunal spécialisé. Donc, en fait, le rapport Rebâtir là, a 190 recommandations de toute nature. Le chapitre 12 a des recommandations qui touchent effectivement toute l'essence du tribunal spécialisé. Mais dans son ensemble, le rapport Rebâtir a fait en sorte qu'il y a des recommandations qui sont, je vous dirais, de la responsabilité du DPCP. Donc, on dit qu'on est porteur. Puis pour d'autres recommandations, on est collaborateur. Donc, au niveau du tribunal spécialisé, effectivement, on est collaborateur dans ces recommandations-là. Donc, je reviens au comité de travail pour élaborer là, la possibilité de mettre tout ça en place. Ce comité-là a déposé un rapport et finalement, en fait, la date exacte, c'est en novembre, je pense, c'est le 25 novembre 2021, la loi visant la création du tribunal spécialisé en matière de violence conjugale, violence sexuelle, a été adoptée et par l'Assemblée, et ça de façon unanime, ce qui est quand même impressionnant.
Oui. Je pense que ça démontre qu'il y avait vraiment quelque chose à faire... Ouais. À ce niveau-là, il fallait vraiment intervenir.
Oui, que les gens étaient prêts puis que il y a une conscientisation tranquillement pas vite qui s'installe au sein de notre société.
Puis je trouve ça intéressant aussi parce que en tant que citoyen, tu sais, on attend des solutions puis on peut trouver ça long, mais on voit en fait parce que vous venez de nous dire que parce qu'il y a un processus assez assez important là qui se fait avant l'adoption.
Mais ça a été rapide quand même.
Oui.
Ben, personnellement, je trouve là, je me rappelle encore.
C'est quand même frais à notre mémoire, là, cette
Oui, vague-là. Je me rappelle de voir des amis puis des gens témoigner sur les réseaux sociaux, d'être victimes, c'est vraiment dans la foulée du MeToo. Puis, c'est quand même en 2024, qu'on soit là déjà puis que les tribunaux soient présents. Je trouve que ça a été quand même rapide. Je pense que le gouvernement a pris ça en main parce que c'est un enjeu qui était très important.
Qui est majeur. Puis ça démontre effectivement la volonté là, quand on disait ça avait interpellé plusieurs acteurs de notre société, mais on le voit de cette façon-là, entre autres.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des objectifs et des buts recherchés par la création du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et violences conjugales?
Oui, puis en fait, je te dirais, l'idéal, là, je l'ai amené avec moi, il y a la loi qui est la loi là, visant à la création du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle puis de violence conjugale. Puis ça vaut la peine de s'attarder en fait aux considérants puis à l'article premier pour les premiers allégués qui font en sorte qu'on peut prendre... vous le savez, là, c'est l'essence de la loi qui est là. Donc, quand on a à se positionner, à se questionner ou à penser à des choses, bien, revenir à l'essence de la loi nous permet de prendre les bonnes décisions. Donc, je les lirai, mais j'y commenterai un petit peu, si vous me le permettez.
Absolument.
Donc, pour les considérants, en fait, il y en a trois. Le premier étant que, considérant la prévalence importante et la complexité des problématiques de violence sexuelle et de violence conjugale dans notre société. En fait, ce qu'on en dit, c'est que le constat qui était fait, c'est qu'il y a beaucoup de violences conjugales, c'est des violences sexuelles dans notre société, et ça va au-delà, en fait, du simple geste. Il y a une complexité à ça, parce que oui, il y a le geste criminel qui est posé, mais quand on parle de violence conjugale, c'est pas juste le geste criminel, c'est la dynamique qui l'entoure. C'est pour ça qu'on parlait de dynamique conjugale, de violence conjugale, on parle du cercle hein, de la violence conjugale. Donc, il faut prendre conscience de ça aussi quand on travaille dans ces dossiers-là. Le deuxième considérant qui est l'importance pour prévenir et contrer ces problématiques, que les acteurs psychosociaux et ceux du système de justice agissent de manière concertée. Le constat qui était fait, c'était qu'on pouvait travailler en silo, chacun de notre côté, dépendamment de nos mandats, alors qu'à certains endroits, effectivement, le travail en cohérence va être bénéfique aussi pour la personne victime. Donc, les décisions pour le modèle d'accompagnement, tu sais, a ça aussi en trame de fond. Finalement, considérant le respect des droits d'un accusé, dont la présomption de son innocence est l'un des fondements du système pénal et criminel, mais on dit, on va le redire, le tribunal spécialisé ne change pas le droit. Donc, comme poursuivante, j'ai quand même le fardeau de la preuve. Il n'a pas été déplacé.
Ouais.
C'est encore le mien. Donc, il faut atterrir le tribunal spécialisé, mais en étant consciente, bien évidemment, puis conscient que le droit criminel n'a pas changé.
Oui, c'est au niveau de l'accompagnement, j'imagine que ça change beaucoup de prendre en considération vraiment le contexte de la violence dans lequel elle s'inscrit, puis toutes les répercussions que ça a au niveau des victimes.
C'est ça. T'sais, comme procureur, quand tu rencontres la personne victime, puis on en reparlera peut-être au fil de la rencontre, mais il faut que tu vois au-delà du geste qui a été posé. Donc, tu as eu un être humain devant toi qui a subi effectivement une violence, mais c'est plus complexe que juste ce que toi t'as vu dans ton dossier comme procureur ou ce qui était rapporté au nouveau policier. Puis il y a une souffrance là, mais cette personne-là peut avoir des enfants, donc il y a une dynamique qui est présente pour les enfants. Comment on passe au travers du processus judiciaire? Est-ce qu'elle a d'autres besoins? Est-ce qu'elle a besoin de soutien? Parce que moi, comme procureur, bien... Je suis avocate, hein? Je suis pas psychologue, je suis pas travailleur social. Fait qu'il y a un bout que je peux pas lui amener. Je peux pas, je peux écouter, je vais être empathique. C'est pas pour rien qu'effectivement je suis procureur, mais c'est pas moi qui peux la faire cheminer sur le volet social ou le volet psychologique. Puis l'article premier, c'est vraiment lui qui détermine les objectifs de la création du tribunal. Et je vais vous faire le même exercice, donc je vais vous les lire puis je vais un peu vous l'expliquer. Puis si vous avez des questions, vous voulez ajouter, bien, vous êtes bien évidemment là, bienvenue. Donc, la loi, en fait, vise à rebâtir la confiance des personnes victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales envers le système de justice et qu'à cette fin, des mesures soient prises pour que les personnes qu'ils souhaitent entendent et poursuivent un parcours judiciaire. Donc, je pense que ça répond bien évidemment à ce qui était dénoncé en trame de fond pour la vague MeToo. Puis c'est de prendre conscience que quand une personne victime décide de dénoncer un crime dont elle a été victime, c'est une décision qui est très, très, très importante dans sa vie puis qui peut être difficile à prendre. Donc, et quand elle le fait, le processus judiciaire va quand même la maintenir hein, pas dans sa dynamique, mais elle peut pas mettre en arrière ce qu'elle a vécu parce qu'on va la faire venir témoigner, donc on va la replonger dans ses souvenirs, tout ça. Alors, il faut effectivement que quand elle fait le pas de venir dénoncer, bien, qu'on puisse faciliter son accompagnement dans le processus, parce que c'est pas la fin de ce qu'elle a vécu. Ensuite, on demande que les services psychosociaux et judiciaires offrent aux personnes victimes, offerts aux personnes victimes soient intégrés et adaptés à ce que les lieux physiques soient aménagés pour être sécuritaires et sécurisants et à ce qu'un effort soutenu soit fait pour réduire les délais dans le traitement des dossiers. Donc, ce qui est visé aussi au niveau du tribunal spécialisé, c'est qu'on parle d'accompagnement, mais on veut que les personnes n'aient pas à chercher les services qui peuvent l'aider. Donc, que les services viennent aux personnes plutôt qu'on donne juste des numéros de téléphone. Hein? On veut vraiment faire le pont entre deux organismes, par exemple. Il y a un organisme qui peut aider pour une portion de son besoin, puis que l'autre portion du besoin va être répondue par un autre, puis on ne le dira pas, bien, cherche, t'sais. On l'accompagne, on lui prend la main, puis on l'accompagne. Bien évidemment, on veut que quand la personne, entre autres, vient au palais de justice, elle se sente en sécurité quand elle vient. Donc, ça, c'est important aussi à considérer. Est-ce qu'elle a des craintes de croiser son agresseur? Est-ce qu'il est là cette journée-là quand moi, je la rencontre? Il faut garder ça en tête. Et bien évidemment, on veut que ce soit des dossiers qui soient traités en priorité. Donc, nous, de notre côté, au niveau de nos directives, bien évidemment, comme procureur, j'ai effectivement à offrir un traitement prioritaire à ces dossiers-là. Puis au niveau du tribunal, quand c'est le temps de faire avancer ces dossiers-là, bien, ils doivent avancer plus vite, mais ils doivent avoir des dates en priorité comparativement à d'autres dossiers. Également, on demande que, on veut assurer aussi un cheminement particulier des poursuites qui implique un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale, ainsi que le perfectionnement des intervenants en ces matières afin de réduire les risques de victimisation secondaire qui implique les personnes victimes soient soumises à des situations de minimisation ou d'insensibilité en regard de la violence dont elles ont préalablement été victimes. La victimisation secondaire, on en a parlé, hein, plus on demande à une personne de répéter son histoire, bien effectivement, on la replonge dans ça. Donc, il faut être sensibilisé à ça aussi. Donc, est-ce que dans le contexte de l'accompagnement, il y a cette partie-là éventuellement qui pourra s'éviter effectivement? Et on va voir là, qu'est-ce qui est entre autres envisagé du côté des besoins ou de référencement de la personne. Bien évidemment, je parle pour les procureurs, là, mais c'est les procureurs qui traitent ces dossiers-là, c'est des procureurs qui ont reçu des formations spécialisées. Donc, il y a une formation de base, puis après ça, il y a des formations spécialisées qui vont s'ajouter. Puis ça sera en continu. Donc, on ne pourra jamais dire qu'on a tout vu, puis on a tout... Il n'y a rien de nouveau. Donc, mais c'est une volonté qu'on le retrouve du côté des poursuivants. Mais qu'on le retrouve aussi du côté des avocats de la défense, des enquêteurs, des policiers, des intervenants aussi qui œuvrent autour de la personne victime.
Mais c'est bien qu'ils soient sensibilisés parce que c'est sûr que pour l'avocat de la défense, dans un dossier comme ça, va devoir, en général, contre-interroger parfois la victime. Oui. Puis c'est pas toujours évident, j'imagine pour les victimes, de se replonger là-dedans, mais également d'être contre-interrogé. De se faire un peu comme contredire sur sa version des choses. Donc, je pense que c'est bien aussi que tous les acteurs, même à la défense ou les policiers ou les enquêteurs, soient sensibilisés là-dessus parce que je pense que si on se replace dans le droit il y a quelques années, ça pouvait être difficile pour la victime.
Ben oui. Puis on a évolué là, à une époque qui n'était même pas celle de ma pratique. On a quand même peur. En violence sexuelle, la déclaration spontanée, ce qui est une aberration aujourd'hui. Mais c'est la preuve qu'on évolue, qu'on en comprend plus aussi. Puis, tu sais, tout ce qui est les mythes et préjugés, il faut qu'on en soit conscient parce que comme procureur, je ne peux pas poser ce genre de questions-là, mais aussi l'avocat de la défense. Donc, mais il faut qu'il soit quand même en mesure de faire son travail,
exact.
Qui est de contre-interroger. Ouais. Ça, c'est pas soustrait du tribunal spécialisé. Ça fait partie du processus judiciaire qui n'est pas changé, même si c'est le tribunal spécialisé. Si on continue aussi, on demande que soient considérés les besoins particuliers des personnes victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales tout au long de leur cheminement, y compris pendant le processus judiciaire. On peut faire référence, comme exemple, aux mesures d'aide au témoignage. Donc, c'est prévu au code criminel. Il y a des règles, c'est pas des automatismes pour les adultes. Les enfants, c'est autre chose. Mais effectivement, d'être sensibilisé à ça comme procureur aussi, que bien que tu es un adulte, ça se peut qu'effectivement, tu sais, que de témoigner devant ton abuseur puis devant ton agresseur occasionne certains défis. Est-ce que on peut, dans certaines circonstances, il y a un fardeau à remplir, mais trouver une façon selon ce que la personne demande. Tandis que du côté des enfants, on dirait que ça nous vient plus naturellement de considérer que c'est facile.
Oui. Mm-hmm. Puis je pense logique. Qu'on dit d'emblée qu'ils sont tellement vulnérables, c'est dans ça. Sens.
Mais les personnes victimes de violences sexuelles...
Le sont tout autant, oui.
Voilà, c'est bien dit. Ouais. Et en terminant, en fait, que l'accompagnement tienne compte des réalités culturelles et historiques des personnes victimes des Premières Nations et des Inuits. Mais en fait, il faut aussi qu'on soit formés, nous, comme personnes allochtones, sur leur réalité, sur, justement, toute la culture qui entoure. Puis, il faut aussi être en mesure de considérer que plus ça va aussi, plus les personnes autochtones sont capables d'accompagner les personnes qui sont victimes autochtones. Donc, qui sont bien placées aussi pour le faire. Donc, ça fait partie...
C'est comme un accompagnement qui est plus rapproché de leur réalité dans ce qu'ils ont vécu, j'imagine.
Oui, en background, on peut dire en background, ouais. ça fait partie de qui ils sont. Hein, on ne peut pas dissocier ça. Puis, fait qu'il faut s'y intéresser pour bien comprendre aussi comment eux voient les choses. Puis comment on peut les amener au travers du processus judiciaire.
Il y a vraiment beaucoup d'objectifs et de buts. C'est très intéressant. Je pense que, honnêtement, ça couvre beaucoup, beaucoup d'enjeux.
C'est un beau défi.
Oui.
On n'a pas fini. Mais les balises, je trouve, qui sont installées, sont quand même atteignables, mais avec un travail de société, là, t'sais, de tout le monde. Sinon, on a parlé, effectivement, beaucoup de l'accompagnement. Et ouais. Tu me posais la question, Justine, comment ça peut se transmettre, puis est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs au sein du processus? Oui, effectivement, le tribunal spécialisé voulant renforcer l'accompagnement, éviter justement la victimisation secondaire, éviter qu'on travaille en silo, a créé un nouvel acteur qu'on appelle un intervenant socio-judiciaire de liaison.
OK.
C'est un long nom. Nous, on l'appelle là, l'ISL. Ça va plus vite de l'utiliser comme ça. C'est des personnes, en fait, qui sont embauchées par le CAVAC, le réseau des CAVAC, ouais. Vous connaissez.
Ouais.
Donc, quand même employées par le CAVAC, qui ont une tâche qui est différente d'une intervenante de confiance, donc ce à quoi on les connaissait là, de façon première. Ces intervenants-là ont une formation particulière pour ce qu'elles auront à faire, on pourra y revenir. Et c'est des gens qui dont sont membres d'autres professionnels. Et on peut parler de criminologues, sexologues, psychologues. Et ces personnes-là, en fait, là, ont plusieurs tâches. Deux principales dont on peut parler, c'est le fait que au niveau de tout le besoin, le référencement qu'on parlait tantôt, quel service peut être bénéfique à la personne qu'elles ont. Donc, elles travaillent sur ce volet-là, à faire les liens, effectivement, avec des organismes qui pourraient aider la personne victime. Elle est également là, elle est centrale dans la vie du processus judiciaire de la personne. Donc, c'est une personne de référence à qui on peut s'adresser. Comme procureur, entre autres, mais elle a aussi comme tâche d'évaluer, en fait, elle fait l'appréciation du risque de la personne victime. Donc, en contexte de violence conjugale, éventuellement, on pourra parler d'un exemple plus tard, mais elle a rencontré la personne victime et voir, au moment où elle est devant elle, quels sont les facteurs de risque qui sont encore présents, parce que oui, il y en a qui sont constatés au moment de l'infraction, mais ça se peut qu'il y en a d'autres qui perdurent. Donc, qu'est-ce qui est encore présent comme facteur de risque? Puis, quel facteur de protection est là, cette personne-là, pour voir dans quelle situation elle est et pouvoir l'aider là, sur toutes les facettes que représente là, le fait d'intégrer, en fait, le processus judiciaire parce qu'elle a dénoncé un crime. L'intervenante socio-judiciaire de liaison, donc l'ISL, n'est pas l'intervenante de confiance.
Mm-hmm.
C'est une personne différente. Toutefois, si effectivement la personne a une intervenante de confiance, il va avoir un travail de collaboration qui va se faire à deux. Fait quand on vous disait que les personnes, on ne travaille pas en silo autour de cette personne-là, mais c'est un exemple. Donc, l'intervenante de confiance va s'intégrer et, au travail.
Puis, je peux me permettre, l'intervenante de confiance, c'est quoi la grosse différence avec l'intervenante qui va accompagner la victime dans tout au long du processus?
Oui. Bien, l'intervenante de confiance pourrait revenir du réseau des CAVAC, pourrait venir d'un autre organisme comme une maison d'hébergement.
OK.
Donc, son service peut être différent en termes de son accompagnement au sein du processus, mais au terme de son cheminement aussi. Comme personne victime, comment la faire progresser, amener. Tandis que l'intervenante socio-judiciaire de liaison, elle a accès à certains documents dans mon dossier. C'est une entente qui a été signée. Elle a accès donc à certains des documents qui se retrouvent dans mon dossier pour justement, entre autres, faire l'appréciation du risque. Chose que les intervenantes de confiance n'ont pas. On n'a pas accès à notre dossier. Bien évidemment, elle ne peut pas l'utiliser puis les montrer à la personne victime, mais ça fait partie de choses qu'elle a à faire son travail. Et elle va faire une opinion professionnelle du constat qu'elle a fait avec la personne victime. Donc, on est ailleurs. C'est pas le même, c'est pas sous la même lunette que l'intervention se fait puis que le travail se fait.
Okay.
Ce qui fait que l'intervenante socio-judiciaire de liaison pourrait, elle, faire un constat qui n'est pas nécessairement en faveur de la personne victime, mais qui n'est peut-être pas comme elle le désirait. On va y revenir plus tard, mais quand il est question de vouloir modifier des conditions parce que, bon, la personne victime désirait avoir des contacts avec son abuseur ou son agresseur, il se peut que l'ISL, tu sais, considère pas, elle, que ça devrait être favorablement fait. Tandis que l'intervenante de confiance travaille à un autre niveau avec elle.
Ça, c'est les nuances qu'on oublie parfois, là, je pense. Là, que c'est des fois, les gens, ils vont en cours pour dénoncer leur oncle, leur chum, leur père, des personnes super proches d'eux. Là, j'imagine que c'est super...
C'est difficile.
Oui.
C'est difficile.
Oui, je pense que c'est bien aussi que l'intervenante, c'est socio-judiciaire de liaison,
oui,
c'est ça?
Oui, ISL.
Oui, ISL, soit là, parce que j'ai un petit background en criminaux. J'ai mon certificat en criminaux, puis il y a beaucoup de concepts que vous parlez que ça me revient, puis je me dis, l'intervenante qui va plus être de confiance, parfois, j'imagine, ça pouvait peut-être un peu ramener la victime dans ce cercle-là de la violence, si la victime désirait des fois revoir...
Mais son accompagnement est différent.
Son agresseur.
Oui. Ouais.
Tandis que l'intervenante de
l'ISL,
pardon, si elle ne fait pas le constat que c'est favorable, ça, je pense que ça pourrait justement être bénéfique pour la victime. Donc,
ouais,
je pense que ça apporte un autre support.
Elle va le nommer à la personne victime qui a fait sa demande-là. Donc, c'est ça, l'intervenante de confiance, elle ne revient pas à elle, ce genre de travail-là.
Exactement, oui. Ouais. C'était un peu vers là que je voulais me diriger, exact.
Oui, mais il y a quand même un lien de confiance qu'il faut qu'il se bâtisse, autant avec ton intervenante de confiance qu'avec l'ISL, parce que l'ISL qui va arriver au dossier de cette personne-là va être ce qu'on appelle en soutien vertical tout le long des procédures. Fait que ce sera toujours la même qui va être là. Donc, il faut quand même... qu'il y ait un lien de confiance qui s'installe.
C'est sûr.
C'est un nouveau rôle.
Oui.
Ouais.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du modèle du tribunal spécialisé?
Oui. En fait, le modèle du tribunal spécialisé a est axé autour de quatre piliers. Fait qu'on en parlait un peu tantôt, le pilier de la formation. Donc, effectivement, que tous les acteurs qui gravitent autour de la personne victime, qui sont impliqués dans le système judiciaire de façon générale, là, donc on parle du patrouilleur qui répond à l'appel, jusqu'à l'agent de probation, par exemple, qui va se trouver à faire le suivi de la peine d'une personne, d'un accusé. Donc, on veut qu'il soit formé, comme on se disait, comme pour les procureurs. Fait que oui, une formation de base, mais une formation qui est en continu pour tout le monde. Donc, nous, comme procureurs, on a les formations de base, donc de droit, mais aussi toutes les notions de savoir-être puis de savoir-faire. comment on s'adresse, qu'est-ce qui se fait, comment on aborde certains sujets, parce que c'est intimiste, là, autant violence conjugale qu'en violence sexuelle, tu sais, de demander à quelqu'un de parler de ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose que c'est, on s'en va dans l'intimité. Donc, en évitant la victimisation secondaire, entre autres. Donc, toutes les notions de strangulation, tu sais, à quel point c'est un geste qui est grave, tu sais, qu'on lui donnait peut-être pas tout le poids que ça devrait avoir comme indice ou signal d'alarme avant, tu sais. Donc, il y a ça qu'il faut qu'il soit, bien évidemment, puis toujours à jour, parce que, tu sais, on en connaît. Plus ça va, plus on en connaît. Puis on s'intéresse aussi à ces violences-là pour essayer effectivement éventuellement, tu sais, ce qu'on sera capable de désenrayer ou désabdiquer, je pense pas, mais ce qu'on pourra prévenir certaines choses, sachant, tu sais, qu'il y a des choses plus importantes ou des facteurs plus importants qu'on voit venir, qu'on voyait pas avant. Entre autres, c'est toutes les cellules de crise en contexte de violence conjugale.
C'est quoi ça, une cellule de crise?
Grosso modo, parce que je ne suis pas la meilleure placée pour ça, mais c'est, en fait, c'est des gens qui, ça pourrait être un policier, un procureur, un intervenant d'une maison d'hébergement, qui vont se réunir pour faire une intervention rapide pour la protection de la personne victime. Okay. Donc, tu sais, parce qu'il y a un danger qui est imminent. Okay. Fait que dépendamment de ce qui en résultera, il y a des actions qui peuvent être posées. Donc ça, des fois, il y a des procureurs qui sont impliqués parce que c'est des dossiers qui sont déjà judiciarisés puis arrive autre chose. Donc, pour effectivement qu'on ait ça partout puis que les gens, tu sais, qui soient formés sur, justement, il faut les lire, ces signaux-là, pour être capable d'allumer puis de dire que là, le danger est plus, là. On est passé à autre chose. Donc, la formation est importante. On a parlé de l'accompagnement, effectivement, donc, qui était, entre autres, au niveau de l'intervenante socio-judiciaire de liaison qu'on a parlé. Mais ça, c'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la division spéciale de la Cour du Québec. Donc, nous, comme procureurs, bien évidemment, on n'a pas beaucoup de jeu par rapport à ça. T'sais, c'est dire que ça, c'est un volet qui appartient beaucoup à la Cour du Québec, donc la gestion des calendriers, des agendas, des salles de cours. Donc, ça reste que c'est quand même un pilier qui est important dans le processus judiciaire. Puis, finalement aussi, on en a parlé un peu, qui était l'aménagement des lieux physiques sécuritaires. À titre d'exemple, dans les projets pilotes, les locaux du réseau des CAVAC sont soit rénovés, modernisés pour être un espace là, tu sais, qui est accueillant et sécurisant. Donc, tu sais, on pense, tu sais, le tribunal spécialisé pense à beaucoup de facettes. C'est pour ça que je pense important, tu sais, d'en avoir de les nommer quand même, parce que on voit plusieurs choses en même temps. Tu sais, on s'attaque, je pense, au problème en général qui a été identifié.
Puis, est-ce que les salles de cours sont aménagées?
Les salles de cours, il n'y a pas eu d'aménagement spécifique. Je ne suis pas partout. Je sais que on veut voir au niveau des mesures d'aide aux témoignages quand il est question, entre autres, de télétémoignages. Mm-hmm. Donc, que la personne ne témoigne pas dans la salle de cours même, mais en espèce de circuit fermé. En visio, là, oui. Ouais. Donc, je vais prendre l'exemple du CAVAC, du CAVAC de Québec, au Palais de justice de Québec. Eux, ils ont une salle, tu sais, quand même, pour le permettre, si c'est autorisé dans le par le juge. Il y a une salle au Palais de justice à Québec, on l'appelle la salle 303. Attenante à elle, effectivement, il y a tout un aménagement qui est fait pour qu'une personne puisse rendre témoignage, mais il y a un aménagement comme ça qui est aussi au niveau de Québec dans les locaux du CAVAC. Donc, mais on veut que quand la personne victime arrive au palais, exemple, pour témoigner, peu importe là, l'étape où on est rendu, que ce soit l'enquête préliminaire, le procès, la peine, ça ne veut pas dire qu'elle va passer tout de suite. Hein. Il y a plusieurs dossiers. Donc, puis nous, comme procureurs, on ne sait pas toujours. On sait que j'ai tant de dossiers dans cette journée-là sur le rôle. À quelle heure je vais faire tel dossier, mais c'est pas clair. Fait qu'on va les faire venir souvent de bonne heure.
D'avance, oui.
8h30, le temps d'aller la voir, de voir comment elle va, qui l'accompagne, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, mais il faut lui trouver une place sécuritaire puis sécurisée en attendant qu'on l'appelle, tu sais, quand c'est le dossier qui procède. Donc, fait que c'est clairement pas au milieu des autres accusés qu'elle va se sentir le mieux. elle ne veut pas nécessairement venir s'asseoir en salle de cours, entendre tout le reste qui ne la concerne pas. Elle a déjà assez.
Croisé, j'imagine.
Croisé, effectivement. Ouais, l'agresseur elle veut pas ça non plus. Donc, il faut penser à des endroits sereins où est-ce qu'on peut un peu attendre tranquillement, puis se sentir bien, puis se concentrer sur ce qui s'en vient. Donc, voilà.
Puis, les juges, est-ce que n'importe quel juge peut siéger sur ce tribunal-là ou est-ce qu'il faut une formation spécifique pour être juge?
En fait, le fait qu'on a parlé de tribunal spécialisé, parce qu'on ne le met pas au pluriel, des fois, les gens vont penser que c'est des juges qui vont être nommés, qui vont faire que ça. C'est pas le cas. C'est les juges qui pratiquaient déjà qui vont continuer à faire ces dossiers-là. Par contre, ils ont des formations spécialisées qui viennent en fait là, de la gestion de la Cour du Québec. Puis de par la loi sur les tribunaux judiciaires, en fait, si je me trompe pas, c'est l'article 87.1 qui vient dire que tout nouveau juge qui est nommé, mais devra bien évidemment faire son perfectionnement qui va être offert par la Cour du Québec en ce qui a trait aux réalités en violence conjugale puis en violence sexuelle. Donc, c'est les mêmes juges qu'on a en chambre criminelle. Ouais.
Donc, c'est surtout les juges, j'imagine qu'ici, justement, en chambre criminelle, qui vont avoir cette formation-là.
Oui, c'est eux qui l'ont eu, les nouveaux qu'il y en a, tu sais, on en a eu récemment, là, plusieurs qui ont été nommés, avocats de défense, anciens procureurs aussi, donc ils vont avoir là aussi à faire leur perfectionnement à ce niveau-là.
Puis les procureurs, également, c'est ça, sont formés.
Oui, tu sais, quand on parlait de formation de base, là, on avait tous ceux, là, il y a de ça un an et demi à peu près, tous ceux qui œuvraient dans ces dossiers-là, donc on a un parcours de 15 heures en violence sexuelle puis 15 heures en violence conjugale à suivre. Puis ce parcours-là, en fait, est devenu un parcours obligatoire de base pour tout le monde. Puis après ça, ben, t'sais, comme organisation, en fait, le DPCP, là, en fait beaucoup monde des formations et on a des procureurs qui sont très spécialisés aussi, qui vont se spécialiser. Donc, de part, des fois, les conférences auxquelles ils assistent, ils se font des contacts, je vous dirais, puis ils reviennent monter des formations présentant effectivement ce qu'ils ont appris de nouveau. Donc, c'est important de rester... c'est ça, à jour sur ça. Et le BMO, en fait, effectivement, le participe activement parce que, tu sais, moi, je suis coordonnatrice au niveau du tribunal spécialisé, mais il y a une coordination qui existe en violence sexuelle, puis une coordination aussi qui existe en violence conjugale, en exploitation sexuelle des enfants sur Internet, puis en exploitation sexuelle et marchandisation. Fait que c'est pour dire on va toucher à, effectivement, tu sais, tribunal spécialisé, ça vient un gros, peut-être un parapluie qui relie tout ça.
Ouais.
Mais c'est ça, plus ça va, on veut effectivement aller chercher des connaissances pour être le plus à jour possible. Fait que oui, on est formé. Puis, en fait, la loi, à son article 25, prévoit aussi que d'autres acteurs là, doivent être formés. On parlait tantôt, les policiers, les enquêteurs, les gens, effectivement, des greffes vont partir font partie des gens qui vont être formés, constables spéciaux aussi. Donc, le ministère de la Justice a un portail qui sur lequel il offre, effectivement, plusieurs formations. Au niveau, nous, de procureurs, souvent, on donne des formations aux procureurs, aux enquêteurs, aux policiers. C'est souvent pas mal plus le domaine dans lequel on forme puis on se fait former.
Je pense qu'éventuellement, ça serait bien aussi que les étudiants soient formés là-dessus.
Mais...
ça serait très intéressant, là, je pense, parce que dans nos cours de droit, en tout cas, à l'université ici, là, cours de droit criminel et pénal général, on couvre beaucoup de choses, mais...
C'est immense. C'est immense, toutes les infractions, tu sais, que ça existe.
Oui, mais je trouve qu'on voit beaucoup le côté de l'infraction, justement, avec l'accusé. Puis, des fois, je trouve que peut-être les cours de droit ont tendance un peu à délaisser ce petit côté-là de considération de la victime. Je pense qu'éventuellement, ce serait intéressant que les étudiants puissent bénéficier de formations comme ça pour être conscientisés.
Bien, je te laisse faire du chemin sur ça. Écoute, effectivement, ce qui explique peut-être l'offre qui existe actuellement, c'est que comme procureur, dans le fond, moi, on est nommé par le gouvernement, fait que je suis pas l'avocate de la personne victime.
Oui, exact.
Fait que déjà ça, c'est pas un enjeu, mais il faut quand même bien l'asseoir. Mais clairement, elle est importante dans toute décision oui. que je prends, qui a un impact sur elle. Clairement, je le fais pour la protection de la société en général, ce qui l'inclut aussi, mais je reste maître de mes décisions pareil. Oui. Mais je pense qu'on a tout à gagner d'être effectivement beaucoup plus sensibilisés
oui.
Au-delà du geste, t'sais, au-delà d'un toucher qui était non sollicité, non voulu, au-delà d'un voie de fait, il y a tout ce qui existe en arrière de ça. Là. Mm. C'est ça, c'est plus que le geste. Ouais.
Puis, moi je me demandais, est-ce que le tribunal spécialisé, il peut s'appliquer dans des cas comme, par exemple, le proxénétisme?
Oui. Tu sais, quand on parle de violence conjugale, là, la notion, elle est large. C'est-à-dire que ça touche les crimes qui sont commis contre la personne physique, mais un accusé, un individu qui s'en prendrait aux animaux de la personne, ça demeure des crimes qui sont faits en contexte conjugal.
Okay.
Qui s'en prend à la voiture de madame, à des biens de madame, on est encore en contexte de violence conjugale. Fait que c'est pas juste physiquement.
C'est très large.
C'est très large. Puis c'est la même chose pour les violences sexuelles. Parce que on a le réflexe de penser aux articles de base, 271, 272, 151, 152, où on est vraiment dans des attouchements, une relation non voulue, en tout cas, tu sais, il y a un
spectre. Le non-consentement, le contact physique.
Mais quand on va parler de publication d'images non consensuelles, on est en violence sexuelle.
Okay.
Quand on va parler de l'heure informatique, on est en violence sexuelle. Donc, oui, effectivement, le proxénétisme fait partie des dossiers qui sont intégrés au niveau du tribunal spécialisé. Et ça aussi, tu sais, avec une notion qui est différente de la violence conjugale, même si... parce que le proxénétisme, là, sans m'étendre sur le sujet, il y a une dynamique particulière là, qui fait que
absolument.
Les victimes sont rattachées. Là. Donc, c'est ça aussi, ça mérite qu'on parle de formation continue puis de conscientisation. Là,
est-ce que vous trouvez autres. Que Fugueuse, c'est une bonne série pour illustrer ce genre de dynamique-là?
En fait, moi, je ne l'ai pas suivi. La raison était la suivante, c'est que j'ai fait de ces dossiers-là.
Okay.
Donc, je sais c'est quoi. Je pense qu'effectivement c'était proche de la réalité, mais j'avais assez de voir ce que je voyais puis de m'investir dans mon travail pour ces victimes-là qu'à la maison, quand j'arrive, honnêtement, j'essaie de faire des coupures. Parce qu'on parle aussi, on parle de fatigue de compassion. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas à une époque. Là, je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que c'est pas...
C'est la première fois que j'entends, moi aussi, c'est qu'en fait,
on est exposé, on parle pour les procureurs, là, mais pour plusieurs corps de métier, là, on est exposé. Donc,
comme une carapace qui se crée. Là,
sans être une carapace, je pense qu'il faut, en fait, tu as besoin de balancer ta vie.
Oui.
Tu as besoin de trouver un équilibre parce que comme procureur, ce que tu lis, c'est difficile à longueur de journée. On lit des infractions... Il y a des crimes tu sais, qui sont... en fait, tout crime est perturbant. Donc, il faut balancer, là. Fait que vivement les comédies, vivement
les matchs, les drames.
Effectivement. Je dis pas que je lis pas des livres des fois, là. Mais non, je l'ai pas suivi parce que... c'est quelque chose qui existe clairement à Québec, je vais dire ça comme ça.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple de parcours d'une personne au sein du tribunal spécialisé?
Oui. En fait, en installant les bases en premier, il ne faut jamais perdre de vue que la personne victime, c'est elle qui est au cœur du modèle. OK? Comme procureur, le fait d'avoir l'avènement du tribunal spécialisé n'empêche pas, comme je disais, le droit qui est applicable. Puis mes directives comme procureur. Nos directives sont publiques là, pour ceux qui seraient intéressés à aller les consulter. Donc, Partant de là, ben ça sera, c'est comme mon cadre pour travailler. Donc, comment elle s'insère, effectivement, quand je parlais de l'intervenante socio-judiciaire de liaison, comment elle s'insère dans moi, mon travail? Parce que dans mes directives, quand il est question, entre autres, en contexte de violence sexuelle, contexte de violence conjugale, j'ai des rencontres obligatoires, je dirais, à faire. Donc, quand on parle de violence conjugale, souvent mes rencontres sont post-autorisation. Ça veut dire que comme procureur, j'ai porté mes accusations, ça a été dénoncé, il y a un numéro judiciaire. Là, je vais faire ma rencontre avec la personne victime. En contexte d'agression sexuelle, on parle de rencontres qui sont précédant l'autorisation. Donc, je la rencontre avant, puis prendre ma décision, puis avant de porter mes accusations. Puis, j'ai des obligations aussi quand la personne viendra le temps de témoigner. Je dois la préparer comme il faut. Fait que ça, dans ma ligne de temps d'un dossier, c'est les fois, moi, avant que le tribunal spécialisé arrive, où j'avais à rencontrer la personne victime. Avec le tribunal spécialisé, l'arrivée de l'intervenante socio-judiciaire de liaison, bien, ces rencontres-là vont augmenter. Possiblement, dépendamment, bien évidemment. T'sais, chaque cas va être différent, là, dépendamment, du profil de la personne victime, des constats qu'on fait de la personne victime, mais ça se peut que j'ai des rencontres de suivi, chose que j'avais pas avant. OK? Donc, il fallait voir comment on intègre ça, parce que au lieu qu'elle vienne juste me voir, elle vient voir quelqu'un d'autre. De quelle façon, au même moment, après, quand, comment. Donc, concrètement, comme moi, je suis en poursuite verticale, puis Gliessel est en poursuite verticale, faut que nos agendas
concordent
aussi. Donc, il y a des horaires qui ont été retravaillés pour effectivement prévoir des plages de rencontres. Et comment on la convoque à nos bureaux, parce que c'est des rencontres pour lesquelles... On aimerait bien que les personnes viennent, mais tu sais, je la forcerai jamais à venir. Donc, c'est ça. Alors, et puis cette personne-là, ben quand elle vient, ben, elle met sur pause le temps qu'elle est avec nous, peut-être pour son travail ou elle avait d'autres rendez-vous. Tu sais, souvent, c'est un tout, hein. Fait que, ils ont pas juste dans leur tête, ils ont d'autres choses qui peuvent être plus prioritaires que venir voir un procureur aussi. Donc, faut s'assurer effectivement qu'il y a un dédommagement qui est fait. Alors, c'est effectivement, on donne l'exemple en contexte post-autorisation. Je prends un dossier de violence conjugale, j'ai porté des accusations, je dois rencontrer la personne victime, ça c'est mon obligation. Mais avec le tribunal spécialisé, elle a à venir rencontrer l'intervenante socio-judiciaire de liaison pour justement tout ce qu'on parlait tantôt qui était l'appréciation du risque. Puis tout le référencement au niveau de ses besoins. Moi, comme procureur, à l'époque, j'avais un petit bout là, de référencement. Tu sais, j'essayais de vérifier, voir comment elle allait, puis est-ce qu'elle avait besoin d'aller voir le CAVAC, est-ce qu'elle avait quelqu'un, tu sais, est-ce qu'elle était en maison d'hébergement, qui pouvait l'aider, qu'est-ce qui lui manque, tu sais, comment on peut faire ça. Ça, c'est quelque chose qui est plus évacué maintenant de ma rencontre que j'ai pas à faire. Parce qu'à l'évidence, c'est les meilleures compétences de la personne pour le faire, c'est l'intervenante. Mm-hmm. Donc, quand ça s'est fait, il y a un technicien administratif dans le bureau du procureur du point de service qui va rejoindre la personne victime pour lui offrir la possibilité de cette rencontre-là, avec des dates qui sont effectivement ciblées, là, ma date, ma disponibilité avec celle éventuellement de l'ISL. Quand ça sera fait, bien, la personne victime éventuellement, peut-être un mois suivant l'entretien téléphonique, va se présenter. Donc, dans un premier temps, elle se présente au bureau du CAVAC et va rencontrer l'ISL. C'est une rencontre qui dure environ une heure. Donc, l'ISL, comme on se dit encore, va voir effectivement là, à faire son travail. Et au terme de ça, elle va rédiger une note au procureur qui contient certaines informations qui peuvent... donner des pistes au procureur pour prendre le rebond avec la personne victime quand toi tu la reçois, tu sais, pour préparer ta rencontre, pour essayer de voir si t'as pas besoin, qu'effectivement t'as pas besoin de répéter.
L'approche, ouais, comment
tu sais, ton lien de confiance, ouais. C'est important aussi, fait que, puis on veut pas nécessairement la faire répéter sur tout, mais moi j'ai un mandat particulier, il faut que je prenne mes décisions en fonction du droit, mm-hmm. Puis tu sais, l'intervenante apprend des décisions, elle en fonction
de son expertise,
ouais. Mais ça peut avoir Fait que c'est ça.
Des objectifs différents.
Ben, objectifs différents, ouais, mais il faut qu'on trouve une façon de toujours travailler de concert.
Mais
le plus
il y a une
possible.
Communication entre, puis ça, c'est quand même quelque chose
donc,
qui est important.
Ce qui fait que, tu sais, elle fait sa rencontre, la personne victime fait sa rencontre avec l'ISL. Il y a peut-être, peut-être un 15 minutes, 20 minutes entre la rencontre, la fin de la rencontre de l'ISL plus le début de la rencontre avec le procureur. Puis après ça, il y a la rencontre avec le procureur. Donc, moi, ce que je faisais à cette époque-là, je change pas tant. T'sais, c'est-à-dire que là, c'était en post-autorisation. Fait que c'est la première fois que je la rencontre. Donc, bien évidemment, je vais me présenter. Je suis qui? C'est grosso modo, c'est quoi mon parcours pour que puisse assimiler, tu sais, qu'effectivement, j'ai été formée, tu sais, pour faire ça, tu sais, faut le travailler, le lien de confiance, parce que moi, je sais déjà beaucoup de choses sur elle, alors qu'elle a assez strictement rien sur moi. Ouais, pas que je parle de ma vie personnelle, mais une espèce de donnant-donnant, je sais pas comment expliquer ça autrement. Puis, après ça, je vais avec elle, je vais lui dire que, tu sais, les accusations que j'ai portées, comment je vois les choses, les prochains mois à venir, où je m'en vais, qu'est-ce que je m'attends d'elle aussi, comment elle va, depuis, tu sais, parce que là, moi, j'ai pas, tu sais, l'information que j'ai à son propos va arrêter le jour où elle aura dénoncé, puis que j'aurai eu l'enquête, tu sais, j'aurai eu le rapport policier qui terminait l'enquête. Fait que ça fait déjà, mettons, 2 mois, mais je sais pas où elle en est nécessairement rendue. Je réponds à ces questions, ils ont des questions, on répond à leurs questions, leurs attentes, c'est quoi leurs besoins. On a parlé tantôt des mesures d'aide au témoignage, mais de voir avec eux, est-ce que c'est quelque chose qu'ils éventuellement aimeraient avoir pour que moi je planifie d'avance ce que j'ai des demandes à faire, parce que comme on disait, pour les adultes, il faut des justifications, c'est pas comme les enfants. Donc, puis de lui expliquer ça, c'est pas parce que tu le demandes que tu vas l'avoir automatiquement, mais je t'explique qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, quand est-ce que tu vas entendre parler de moi, quand est-ce que tu n'entendras pas parler de moi. Comme je disais tantôt, ben, faut que j'explique que je suis pas son avocat, mais tu sais qu'elle est importante, puis que mais je prends des décisions en fonction du droit, pas en fonction de mon cœur. Parce que c'est deux choses. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est une rencontre qui peut durer peut-être 30 minutes, 40 minutes. Ça dépend de l'état de la personne, du nombre de questions qu'elle a aussi quand on la rencontre. Puis donc quand cette rencontre-là est terminée, au niveau, tu sais, on parlait de la note tantôt qui était faite au procureur par l'ISL, mais on a une espèce de suivi. C'est-à-dire que est-ce que c'est une personne que j'aurai à rencontrer de nouveau dans quelques mois, compte tenu de tout le constat, tu sais, que l'ISL a fait, que j'ai pas moi en ma possession, parce que ça reste une rencontre qui est confidentielle, mais j'ai certaines informations pour lesquelles elle a accepté, c'est que l'ISL me fournisse comme procureur. Donc, je vais soit que le rendez-vous va se refixer tout de suite, ou je lui dis, bien, on va revenir vers vous, vous allez avoir un autre appel pour céduler un autre rendez-vous. On disait tantôt, il y a plusieurs rencontres qui peuvent s'installer, qui n'existaient pas avant. Là, ça, c'est le cas de la rencontre post-autorisation, mais si la personne se questionne quant à son implication dans le processus judiciaire. Si elle veut faire moduler des contacts, exemple, il y avait des interdictions de contact totales avec monsieur, madame désire reprendre la vie commune avec monsieur, personne, ouais. Avec cette personne-là. Donc, est-ce qu'effectivement, on ouvre certaines conditions, par étapes? On n'est pas obligé de tout enlever. Donc, c'est ces rencontres-là aussi qui nous permettent de voir est-ce qu'on le fait, est-ce que c'est trop tôt. Puis si je le fais, est-ce qu'elle reste quand même en sécurité? Elle a-t-il une porte de sortie s'il arrive quelque chose? Donc, si effectivement c'est une rencontre qui touchait plutôt ce sujet-là, bien clairement, à la fin de ma rencontre, ma décision va être prise, puis j'ai à lui expliquer ce sera quoi ma décision. Puis tu sais pourquoi? Je parle pour moi, là, mais je trouve que je lui dois ça. Non, je suis pas son avocate, mais je veux qu'elle comprenne. Elle va peut-être être fâchée quand elle va partir de mon bureau quand même, Mais peut-être qu'elle va être rassurée aussi qu'elle n'a pas besoin de la prendre, cette décision-là. Puis que c'est sur mes épaules, puis c'est un fardeau qu'elle peut se libérer. Donc, on n'est jamais... on n'est pas nécessairement fermé à une victime qui veut éventuellement reprendre contact. Mais, il faut être prudent. Fait que c'est des rencontres qu'on faisait au téléphone. Pas nécessairement personne, tandis que là, le tribunal spécialisé commande que ces rencontres-là soient en personne. Donc, on s'assure que quand la personne vient, elle n'a pas l'influence de personne d'autre en arrière d'elle.
Ouais.
Donc, peut-être plus libre de parler. Puis quand c'est nous, en fait, qui apprenons, minimalement, elle peut dire qu'elle l'a demandé, puis il en était décidé autrement, mais qu'elle l'a demandé. Fait que, c'est ça. Fait que ça demande quand même plus de temps, tu sais, de la faire venir que de l'appeler. Mais c'est plus sécuritaire. On approche. Fait que c'est aussi, tu sais, quand on parlait de prendre conscience de certaines choses, ben il y a ça. Tu sais, quand moi je l'appelle, faut que je m'assure que dans un environnement sécuritaire, qu'il écoute pas, que. Donc, quand je lis avec l'ISL, puis tu sais, après ça, qu'elle vient me voir à mon bureau, ben normalement, pour ce temps-là, elle est en sécurité.
Ouais.
Donc, oui.
Ben, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que les gens qui vont traverser ce processus-là pourraient penser qu'ils pourraient se faire juger de vouloir retourner avec ces gens-là ou que c'est un processus qui est très froid, c'est très corporatif, là. Mais j'ai l'impression que ce que vous nous racontez, c'est que c'est au contraire, c'est très humain. Puis vous faites confiance d'une certaine façon aux victimes aussi.
Mm-hmm.
Puis je sens pas de jugement non plus dans ce que vous dites.
Non.
Je trouve ça intéressant.
Je suis sûre que là, tu sais, moi que t'entends, je parle pour moi, mais je pense pour beaucoup de... pour beaucoup de collègues, là, quand tu fais ces dossiers-là, je pense qu'effectivement, l'empathie ou, tu sais, de la façon dont on travaille, ça doit beaucoup se ressembler. Tu sais, comme procureur, là, moi, j'ai pas de cause à gagner, j'ai pas de cause à perdre, là. Mais tu sais, je le fais, tu sais, pour la protection de la société.
Ça fait clairement une différence au niveau des. J'espère. De la confiance des victimes, là.
J'espère. Tu sais, ça se peut qu'elle l'aime encore. T'sais, ça, c'est pas à moi de. Est-ce que je trouve ça triste? Assurément. Est-ce que j'aimerais qu'elle soit avec quelqu'un d'autre? Ailleurs? Assurément. Mais, tu sais, je peux comprendre effectivement, tu sais, qu'elle aime cette personne-là. Donc.
Mais elle a eu l'accompagnant nécessaire, puis juste à la situation qui est arrivée, puis.
On donne des bons outils.
Oui.
Tu sais, est-ce que.
Ils ne sont pas laissés à elles-mêmes.
Non, non. Donc, puis le fait des fois, la reprise de vie commune, tu sais, va permettre peut-être d'aller voir quelque chose ou de sonder quelque chose. Ah, finalement, la personne, elle n'a pas changé.
Mm-hmm.
Fait que finalement, ça va être fini.
Elle va développer des outils, elle, pour...
Elle retournera peut-être pas.
C'est ça, pour disant, voir si elle cercle, comme vous parlez tantôt, le cercle de la violence conjugale et tout ça. Puis j'ai l'impression aussi que ça vient répondre vraiment à ce que le mouvement MeToo, puis les gens, quand ils dénonçaient, souvent, c'est que je pense qu'il y avait l'impression d'être un peu, je mets des guillemets, là, mais comme oublié par le système judiciaire, de ne pas avoir d'explication, de ne pas avoir d'appel... après avoir été dénoncé à la police. Mais là, justement, comme vous parlez, de donner des explications, même si la personne va être frustrée par la suite, puis elle n'aimera pas nécessairement la décision qui a été prise, mais elle va avoir eu les explications justes. Elle va savoir le pourquoi du comment. Puis, tu sais, je pense que ça peut être bénéfique dans un cheminement pour une personne, justement, qui passe dans le système judiciaire, de savoir pourquoi, puis d'avoir des explications.
Oh, ça vaut quelque chose, ça aussi, dans le fond?
Oui.
Ben, je pense, c'est parce que, c'est ça, comme procureur, on le fait quand même aussi pour ces personnes-là. Puis, tu sais, probablement que mes collègues aussi, là, mais tu sais, on vit bien. Mais il faut bien vivre avec nos décisions, puis c'est pas toujours facile, de refuser un dossier, c'est pas un pile ou face. Il y a plusieurs choses, tu sais, qui vont rentrer en ligne de compte. Donc,
c'est basé sur le droit, comme vous avez mentionné.
Le droit, la preuve qui est admissible. Puis il y a des victimes, des fois, qui ne seront pas prêtes. Fait qu'on va attendre. Mais c'est ça, tu sais, ça fait partie, je pense, ben, comme procureur, c'est ça, ça fait partie des choses qu'il faut quand même que tu considères, tu sais, même si effectivement c'est tes dossiers, puis que comme procureur, c'est ça, porter des accusations. Pour les dossiers de cette nature-là, c'est clairement que la personne victime, il joue beaucoup, là.
J'ai une dernière question pour vous. On a déjà commencé à en parler un peu, je crois, mais quel défi amène le tribunal spécialisé et son modèle d'accompagnement, vous trouvez?
Ben oui, effectivement, de beaux défis que je nommerais, mais c'est le changement de culture. C'est vraiment de plusieurs acteurs, mais t'sais, au niveau, on parlait du cadre du modèle, du tribunal spécialisé, les piliers. En parallèle à ça, en fait, il y a le chantier au niveau de des standards, t'sais, d'offres de services. Ce qu'on veut, c'est que la personne victime, peu importe elle est où au Québec, elle est effectivement le meilleur service qui peut être offert dans le secteur. Donc, il faut que les services soient bonifiés, uniformisés. Puis l'avantage, t'sais, des projets pilotes, c'est vraiment ça, t'sais, de voir quelles ont été les bonnes pratiques, quelles sont celles à améliorer, puis comment faire les choses autrement. Donc, mais tu sais, c'est vraiment, faut que tout le monde s'implique si on veut atteindre effectivement ces objectifs-là.
Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de venir parler avec nous aujourd'hui.
Merci. Ça me fait plaisir. Bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.